Voilà, écoutez, on va prier, puis ensuite on va attaquer notre texte de ce matin dans Marc chapitre 10. Prions. Seigneur, quelle joie ce matin de pouvoir nous réunir et d'ouvrir sur la Scriptura, Seigneur, la parole de Dieu, Seigneur, où chaque mot, chaque lettre, chaque phrase, chaque chapitre, chaque livre est inspiré, soufflé de ta bouche. Et Seigneur, nous te demandons ce matin de nous parler vraiment clairement, Seigneur, par ce récit étonnant du jeune homme riche. Donc je te remercie maintenant au nom de Jésus. Amen. Ouvrez vos Bibles à Marc chapitre 10 et nous allons lire les versets 17 à 22. C'est ce récit très connu de l'homme riche, du jeune homme riche, d'accord? Le récit du jeune homme riche, et je vais lire à partir du verset 17. Marc 10 et le verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, dit « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point. » Tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Un récit remarquable d'un jeune homme, vraiment quelque chose d'étonnant. Le jeune homme riche. Une émission de télévision a montré la méthode utilisée en Afrique pour capturer les singes. Les indigènes faisaient un trou dans un tronc et mettait un appât dans le trou. Le singe mettait sa main dans le trou pour prendre l'appât, mais lorsque sa main tenait l'appât, il ne pouvait plus ressortir son poignet par le trou. Déterminé de garder son appât dans la main, et il refusa ainsi de lâcher, et donc il avait encore l'appât dans la main lorsqu'on l'a capturé. Tout ce qu'il avait besoin de faire pour être libre était de lâcher ce qu'il tenait dans la main. Mais lâcher était incompréhensible pour lui, ses priorités ne le lui permettaient pas. De ce fait, il a été détruit par ce qu'il pensait posséder. Quelque part, on a envie de dire, mais quel singe stupide. Mais les gens, franchement, ne sont-ils pas tout aussi stupides ? Ils s'accrochent à des appâts qu'ils pensent être importants, mais en le faisant, ils perdent ce qui est vraiment important, oui, la vie éternelle. C'est le but de ce texte. Le récit qui est devant nous ce matin le montre si bien. La vie de ce jeune homme nous montre comment certaines personnes peuvent avoir un grand intérêt dans l'Évangile, peuvent même faire des grandes professions de foi impressionnantes, mais ne viennent jamais en relation intime avec Jésus-Christ. Ils ne sont pas sauvés. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas renoncer à leur péché, ils ne sont pas prêts à renoncer à tout pour suivre Jésus-Christ. Vous connaissez peut-être Luc 14, 33, c'est clair et net. Écoutez, Jésus dit, « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Alors que faut-il faire pour devenir disciple de Jésus-Christ ? C'est une question intéressante et importante. Eh bien, le critère de Jésus est clair. Jésus veut être notre sauveur et notre Seigneur sans aucune concurrence. Lui seul est Dieu, Dieu incarné. Il veut être adoré comme tel, sans devoir partager sa gloire avec quelque autre idole. Lorsqu'une personne vient à Christ pour recevoir la vie éternelle, elle dit « Jésus prend tout ». Ma vie, mes possessions, mon travail, ma famille, mes relations, oui, prends tout, Seigneur. Il y a même un chant qu'on chante souvent, « Oui, ton oui prend tout Seigneur ». Jésus n'est pas intéressé par des professions de foi légères et vides de sens. Exode 23, c'est le premier commandement des 10. Il est dit ceci, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Il n'y a qu'un Dieu, on n'adore qu'un Dieu, point à la ligne. Matthieu 6, 24, « Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon ». Mammon, c'est l'argent. L'argent peut devenir un Dieu. Non, non, on loue qu'un Dieu. On n'adore qu'un Dieu, le seul et unique vrai Dieu. L'histoire tragique de ce jeune homme riche dépeint un homme qui, comme le singe, refusa de céder ce qui lui était cher pour quelque chose de bien mieux, la vie éternelle. Alors quelque part, ce récit nous pousse à un examen personnel. Ma foi, moi, est-elle authentique ou est-elle superficielle? Ai-je vraiment laissé mon péché pour venir à Christ sans aucune concurrence? Ça, c'est la question. Et c'est une question légitime. Alors, ce texte, j'ai découpé en quelques parties pour nous simplifier la tâche de le parcourir. Alors, numéro 1. Vous me connaissez, j'aime bien les points, d'accord? Voilà ça. On a plein de points aujourd'hui, vous serez tout contents si vous aimez les points, d'accord? Numéro 1. Le portrait impressionnant du jeune homme riche. Le portrait impressionnant du jeune homme riche. Ben oui, en parcourant le texte devant nous, nous observons plusieurs traits clés de cet homme qui nous aident à mieux le connaître. Premièrement, il était riche. Marc 10, 22 nous dit, « Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. » Il était pas juste riche, très riche, de grands biens. Deux, il était jeune. Matthieu 19, 22 nous dit qu'il était jeune, un jeune homme qui était riche, probablement pas plus de 40 ans, mais peut-être moins, on ne sait pas exactement. Il était donc plein de zèle, plein de bonne foi, un excellent homme d'affaires apparemment. Peut-être avait-il hérité cet argent, on n'en sait rien. Bref, il est jeune et il est riche. Il est peut-être beau aussi, j'en sais rien, mais ça, c'est dit pas dans le texte, d'accord? Beau, jeune et riche, hein, c'est ce qu'on dit souvent. Ou jeune, riche et beau, ou riche, beau et jeune, je sais pas exactement comment il dit ça. Trois, il était important. Luc 18, 18, passage parallèle, nous dit qu'il était chef. Quel genre de chef? Probablement un officier de synagogue ou un chef de synagogue, ou peut-être même dans le Sanhédrin, on ne sait pas. La synagogue était menée par un groupe d'anciens dont il faisait partie probablement. Il était donc important. C'était un homme d'un certain statut social. Il était respecté. 4. Il est juif. Il est juif. Dans Marc 10, 20, après que Jésus, enfin peut-être 19, Jésus lui donne la liste des commandements, on y reviendra. Ensuite, il dit, au verset 20, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Donc cet homme prétendait avoir gardé tous les commandements depuis son enfance. Donc il était juif, zélé, sérieux. 5. Il était religieux. De nouveau, Marc 10, 20. Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Il dit à Jésus qu'il a gardé les commandements que Jésus a cités. Donc ça veut dire qu'il se pensait être vraiment pieux, un homme droit, ça c'est sûr. Lorsque les autres le regardaient, ils voyaient un homme, j'ai envie de dire, tip-top, sans aucun reproche évident, un citoyen modèle, un sorte d'ami que tout le monde aimerait avoir, le genre de voisin parfait. Il n'y avait simplement rien à dire par rapport à lui, il était bien. 6. Il était sincère. Marc 10, 17, comme Jésus se mettait à... En chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demandait-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Alors, c'est intéressant, il est sincère, cet homme a un problème. Et il est honnête par rapport à son problème. Il ressentait dans son cœur un vide. Il savait apparemment qu'il n'avait pas la vie éternelle, parce qu'il vient demander à Jésus comment l'avoir. Il était comme beaucoup d'ailleurs, à la recherche de la vie abondante, pleine et épanouie. Extérieurement, tout semblait aller bien, et pourtant il admet avoir un grand problème. Mais il y a une sorte de guerre intérieure en lui. Hein. L'extérieur tip-top, l'intérieur s'effondre. Et le texte nous dit qu'il a couru auprès de Jésus. Il avait un problème et de manière très sincère voulait le résoudre. Donc il va vite vers Jésus pour ne pas rater sa chance. 7. Il était respectueux. Au verset 17, Il a couru et se jetant à genoux devant lui, il lui dit « Bon maître ». Il se met à genoux, signe de respect devant Jésus. Et finalement, il était informé, comme tellement d'autres, lui aussi avait entendu parler de Jésus et son message et de sa doctrine. Il croyait sincèrement que Jésus avait la solution à son problème. Et donc, il se déplace pour rencontrer Jésus. Jésus est en train d'aller du nord vers Jérusalem pour être crucifié. Et là, ce jeune homme l'intercepte quelque part pour parler avec lui. Donc ça, c'est le premier point, le portrait impressionnant de cet homme. Et c'est vrai que c'est un portrait impressionnant. Deuxième grand point. Le vide intérieur du jeune homme riche. Le vide intérieur du jeune homme riche. Alors bien sûr, j'ai déjà mentionné, mais au verset 17, il dit « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Donc c'est intéressant. Il révèle que malgré sa vie pieuse et religieuse irréprochable qu'il menait, malgré ses richesses financières considérables qu'il avait accumulées, malgré le respect irrépréhensible de sa vie au regard des autres, eh bien, à l'intérieur, il y avait quelque chose qui manquait. Il avait tout, sauf une chose, la vie éternelle. Il avait tout, sauf la vie éternelle. C'est quand même marrant, hein. Je ne sais pas si c'est la bonne manière de le dire, mais c'est quand même, c'est très réel. Je crois qu'il y a beaucoup de gens comme lui. Et je pense que ce verset montre si bien que la richesse, bien qu'elle rend la vie plus facile et confortable, ça c'est indéniable, la richesse rend la vie plus facile et plus confortable. Mais la richesse ne résout pas le problème du cœur. La richesse, et ça c'est le cas ici, la richesse en elle seule ne rend pas un homme ou une femme authentiquement heureux. Et non, il lui manquait quelque chose. En cet instant, ni l'argent, ni la religion. Il était très religieux, très très religieux, impeccable. Et pourtant, il ressent un vide. Donc on apprend que ni l'argent, ni la religion remplit le cœur humain. Je vous donne un exemple. J'ai toujours trouvé étonnant les dernières paroles prononcées par Bouddha. Oui, vous avez bien entendu. Bouddha, le fondateur du bouddhisme, dit ceci avant de mourir, je cite, « Je n'y suis pas arrivé ». Bouddha. Combien de personnes très religieuses pendant toute leur vie réalisent à la fin de leur vie qu'elles sont certaines d'une chose, de ne pas avoir la vie éternelle. Le pape Pie XII, assez intéressant, une chose curieuse s'est déroulée. Lorsqu'il est mort en 1958, son médecin, le docteur Galeazzisi, a écrit, peu après la mort du pape, un article pour un journal à Rome concernant, et je cite, « la mort angoissante du pape Pie XII », où il décrivait la peur et l'insécurité du pape face à la mort. Un certain médecin, Walter Montano, a ajouté ceci à l'article. Il dit, et je cite, « on ne peut que ressentir un sentiment de pitié pour la fin d'un tel homme. Comment est-il possible que le vicaire du Christ, celui qui avait les clés du paradis et de la terre, était incapable de pouvoir utiliser ses clés pour pouvoir entrer dans son propre salut éternel. Quelle fin pitoyable pour un homme qui a dévoué sa vie à la religion, qui a dirigé, comme ils le disent, la barque de Saint-Pierre, qui était infaillible, qui élevait la Vierge Marie à une hauteur qu'un autre pape n'aurait jamais pu imaginer. À la fin de sa vie, il meurt dans la peur et dans l'angoisse, ne sachant pas ce que le futur lui réserve. Toute la pompe et toutes les cérémonies, tous les rituels, en son honneur, peuvent impressionner les gens, mais toutes ces choses ne peuvent pas rapprocher un homme, ne serait-il d'un centimètre, du ciel et de la vie éternelle. » Fin de citation. Intéressant, non? Eh bien, ce jeune homme, dans notre récit, n'est pas différent. Il est foncièrement religieux, foncièrement riche, mais foncièrement perdu. Extérieurement, tout semblait aller bien. À l'intérieur, il était complètement vide. Et là, mes amis, là, je fais une petite parenthèse. Alors, je choisis bien mes mots. Quelque part, c'est encourageant. Écoutez ce que je vais dire. C'est encourageant pour nous qui annonçons l'Évangile. Ne soyons pas intimidés lorsque nous avons l'occasion de parler avec des personnes riches, puissantes, haut placées, avec ceux qui sont importants aux yeux du monde, les nobles et les grands. Ça peut être très intimidant d'être face à ces gens. Car souvent, et c'est pour ça qu'on doit être encouragé, souvent derrière ce vernis poli, il y a un grand vide que ces gens cherchent à combler. Vous savez, les grands et les riches de ce monde sont parfois ceux qui sont les plus seuls et les plus angoissés et qui sont à la recherche de solutions valables. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons la solution. Nous pouvons leur offrir la vie éternelle. C'est-à-dire, on les pointe à celui qui peut leur offrir la vie éternelle. Donc, ne soyons pas intimidés par ce genre de personnes. Ils ont besoin du Seigneur comme tout le monde a besoin du Seigneur. Je pense à Nicodème, homme grand et puissant, qui est venu à Jésus pour être comblé. Et il l'a été. Jésus l'a sauvé, Jean 3. Je pense à Zachée, un homme richissime, qui est venu à Jésus aussi et lui a été comblé. Je pense à Matthieu même. Matthieu qui était un homme richissime, très corrompu, mais que Jésus non seulement a sauvé, mais qu'il a utilisé pour écrire l'évangile de Matthieu dans la Bible. 3. La confusion évidente du jeune homme riche. Alors, en plus du fait que le jeune homme riche savait qu'il n'avait pas la vie éternelle, un autre problème s'ajoute, c'est qu'il était exceptionnellement confus. Il vient à Jésus pour lui demander de l'éclaircir, de l'éclairer sur son état éternel, mais cet homme ne comprend pas qui est celui qui pose la question. En fait, il est confus sur deux points. Premier point, il est confus par rapport à la nature du salut. Verset 17. Il lui dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Matthieu 19, 16, de passage parallèle, dit ceci, « Voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Donc quelque part, ce jeune homme riche demande à Jésus quelle bonne œuvre il doit faire pour avoir la vie éternelle. Ceci révèle quelque chose d'important pour cet homme. Comme toute personne religieuse, il pensait que la vie éternelle s'acquiert par les bonnes œuvres et que l'accès à la vie éternelle dépendait de ses bonnes œuvres. Hein, il dit « Que dois-je faire de bon pour ?» Mais ça, c'est une conception erronée de la vie éternelle. Jésus lui-même nous donne le critère pour avoir la vie éternelle. Dans Matthieu 19, 21, il dit, Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes, on y reviendra. » Dans Matthieu 5, 48, il est dit, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » C'est clair, le Père céleste est parfait. Pour pouvoir vivre éternellement dans la perfection de Dieu, il faut soi-même être parfait. 1 Pierre 3, 16 le dit comme ceci, « Soyez saints, car je suis saint. » Ces versets et bien d'autres affirment que pour pouvoir vivre éternellement dans la présence d'un Dieu parfait ou saint, qu'il faut soi-même être parfait ou saint. Il faut être quoi ? Parfait. Il ne faut pas simplement être meilleur que les autres, non. Il faut être parfait. Pourquoi ? Eh bien, Habacuc 2.13 nous dit ceci, « Car tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. » Mais non, le péché n'a aucune place dans la présence d'un Dieu trois fois saint, Ésaïe 6.3. Donc, pour pouvoir vivre éternellement dans la présence d'un Dieu saint, il faut soi-même être parfaitement saint. Alors, question. Est-il possible de devenir parfait ou parfaitement saint en faisant des efforts de bonnes œuvres? Est-ce que c'est possible, oui ou non, vous pensez? Ben non. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui essayent. Alors, avant d'essayer, je vous donne quelques versets clés, d'accord? Par exemple, Ecclésiaste 7.20. Ecclésiaste 7.20 dit ceci, « Non. » Il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Je répète. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Mes amis, nous sommes tous fichus. Je ne sais pas si vous avez entendu. Tout le monde pêche. Tout le monde. Il n'y a pas sur la terre un homme qui ne pêche pas. Il n'y en a pas un. Pas un. Ésaïe 64, 5. Vous dites, ouais, mais John, mes bonnes œuvres sont exceptionnelles. Allez voir. Ésaïe 64, 5, nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Ouais, mais John, tu sais, tu comprends pas. Vraiment, ma grand-mère, si tu la connaissais, elle est quasiment parfaite, ma grand-mère. Ok, je te crois. Merci d'avoir mis le mot « quasiment ». Parce que Jacques 2,10 dit ceci. Tenez-vous bien, c'est le verset des versets, d'accord ? Regardez, Jacques 2,10 dit ceci. « Car quiconque observe toute la loi » C'est-à-dire que tu prends toute la loi de Dieu et tu l'observes à fond. Tout, parfait, 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 parfait. D'accord ? Je répète. « Car quiconque observe toute la loi, mais, manque de peau, pêche contre un seul commandement, il devient coupable de tous. » Un péché fait de toi un pécheur. Que tu aies commis un péché ou un milliard de péchés, c'est égal aux yeux de Dieu. Une fois que tu as péché, tu es pécheur et tu ne peux plus accéder à la sainteté parfaite de Dieu. C'est impossible. Et quelles sont les conséquences du péché ? Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. La mort physique. On meurt tous physiquement, mais la mort spirituelle, séparation d'entre nous et un Dieu saint. Ézéchiel 18,4, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Romains 2,8 dit, mais l'irritation et la colère sont réservées à ceux qui sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Ce qui nous est réservé, c'est la colère de Dieu, le courroux de Dieu, la séparation éternelle de Dieu. Voilà ce que dit la Bible. Pourquoi ? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est pour cela, mes amis, que la Bible nous dit que le seul moyen de parvenir au salut et à la vie éternelle, c'est par la foi en Jésus-Christ. Pas par les œuvres, parce qu'il est impossible de parvenir à la vie éternelle par les bonnes œuvres. Pourquoi ? Parce qu'il est impossible de continuellement faire le bien. Mais oui, ce jeune homme était très confus par rapport à la nature du salut. Il pensait que par ses propres œuvres, il pouvait. Donc il regardait la liste, il dit « Moi je suis bien, moi je passe ». Il est confus sur une deuxième chose, sur la personne de Jésus-Christ. Le verset 17 nous dit « Il vient et dit « Bon maître, lui demande-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Qu'est-ce qui se passe ici ? C'est un drôle de petit dialogue, si on le comprend. Cet homme vient vers Jésus et lui dit « Bon maître. » Il appelle Jésus bon. Jésus refuse d'être appelé bon par lui. Pourquoi ? Eh bien parce que cet homme ne comprenait pas l'identité réelle de Jésus. Écoutez bien ce que je vais dire. Puisqu'il pensait pouvoir être sauvé par ses propres œuvres, cela prouve qu'il ne reconnaissait pas Jésus pour qui il était vraiment, Dieu incarné, sauveur et Seigneur, l'agneau parfait de Dieu qui ôte le péché du monde. Mes amis, comprenez bien, Jésus n'est pas un bon maître comme le prétendait cet homme. Non, non, il est quoi ? Il est nul autre que Dieu incarné, parfait d'entre les hommes. C'est ce que Jean 1,1 nous dit au commencement, était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, verset 14, et la parole a été faite chair. Dieu est devenu un homme. Jésus, si on était devant Jésus aujourd'hui, on aurait vu Dieu incarné, Dieu enrobé d'une chair humaine. C'est pour ça que dans Jean 29, il a dit, il vit l'agneau, il vit Jésus venant à lui et lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il fallait que Jésus soit sans péché pour pouvoir prendre notre péché et mourir à notre place. C'est la clé, mes amis. C'est la clé. Jésus n'est pas qu'un homme, Jésus est Dieu incarné. 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a point connu le péché, parlant de Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus a pris mon péché et est mort à ma place, il est ressuscité, il a vaincu la mort, il a vaincu mon péché. C'est pour ça qu'il peut me pardonner mon péché, c'est pour ça qu'il peut ôter mon péché. Donc Jésus dit à cet homme, ne m'appelle pas bon, je ne cherche pas à être flatté par un hypocrite. Non, je veux que tu me reconnaisses pour qui je suis vraiment. Si tu penses pouvoir être sauvé par tes bonnes œuvres, cela prouve que tu ne crois pas que Jésus est sauveur ni divin. En fait, tu crois que tu es ton propre sauveur puisque ton salut dépend de toi et non pas de Jésus. C'est pour ça que les systèmes religieux de bonnes œuvres sont tellement dramatiques. Parce que les gens pensent que par leurs bonnes œuvres, ils peuvent acquérir quelque chose de la part de Dieu. Non, tout ce qu'ils reçoivent de Dieu, c'est le courroux pour leurs péchés qu'ils n'arrivent pas à ôter eux-mêmes. 4. Le test surprenant du jeune homme riche. Le test surprenant du jeune homme riche. Verset 19. Alors, verset 18, je recule. Jésus lui dit : Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Bien sûr. Dieu est Christ, Dieu incarné devant lui. Alors, verset 19, c'est surprenant. Regardez. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. Tu connais les commandements. Dans Matthieu 19, 17, passage parallèle, il précise sa pensée. Il a dit, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. À quoi le jeune homme répond, lesquels ? Alors Jésus ici cite 5 des 10 commandements. Et dans Matthieu 19, 19, je viens les lire, j'y reviendrai. Et ensuite, dans Matthieu 19, 19, il rajoute, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, si vous êtes comme beaucoup, vous êtes un peu confus là, tout d'un coup. Vous dites, déjà, moi je ne comprends pas. Là, j'ai l'impression que c'est le salut par les œuvres. Est-ce que Jésus est en train de dire, ben écoute, obéis les commandements et tu auras la vie éternelle. Donc c'est le salut par les œuvres, fais des bonnes œuvres. Alors pas trop vite, d'accord ? J'explique. Réfléchissons bien à ce que Jésus dit à cet homme. Il lui dit en somme, puisque tu ne me reconnais pas comme Dieu incarné, ton sauveur personnel, et puisque tu crois pouvoir atteindre la vie éternelle par tes bonnes œuvres, voici la liste des bonnes œuvres qu'il faut que tu gardes pour pouvoir t'acquérir toi-même la vie éternelle. Mais Jésus n'est-il pas en train de dire qu'il est donc possible d'être justifié ou sauvé et de recevoir la vie éternelle en gardant les 10 commandements ? Alors je vais vous surprendre. Quelque part, oui. Mais attendez le reste de la réponse. Alors donc je dis oui. En théorie, c'est pas faux. Mais il y a un petit problème. Quel est le critère de Dieu pour pouvoir rentrer dans le ciel ? On l'a dit tout à l'heure, c'est quoi ? La sainteté parfaite. La perfection, Ésaïe 6, 3, saint, saint, saint est le Seigneur. Donc, il faut la sainteté absolue, absence de tout péché. Un péché, c'est trop, on l'a vu, Jacques 2, 10. Donc, techniquement, c'est pas faux. Pour se rendre parfait, il faudrait pouvoir garder la loi parfaitement, sans jamais, même une seule fois, pécher contre elle, ni en action, ni en parole, ni en pensée, depuis sa conception. Mais ça, c'est un peu compliqué. Parce qu'on est né dans le péché. C'est pour ça qu'Ecclésiaste 7,20 dit que il n'y a pas un homme sur la terre qui ne pèche pas. Mais tu dis, mais je peux quand même essayer. Oui, tu peux essayer. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens dans le monde essayent. C'est ça la tragédie. Beaucoup de gens essayent. Alors, si tu veux essayer, tu peux. Il y a pas mal de versets qui en parlent. Si tu commences à garder la loi, il faut vivre parfaitement cette loi. Je viens de le dire, Ézéchiel 20, 11, par exemple, dit ceci. Je leur donnais mes lois et leur fit connaître mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Donc si on va dans Galates 3, il interprète, très intéressant, Galates 3, 10, écoutez bien, vraiment intéressant ces versets. Galates 3, 10, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, et il cite, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne les met pas en pratique. Donc, Si tu veux vivre selon le critère de la loi, ok, tu dois tout accomplir parfaitement. Si tu ne le fais pas, tu es maudit. Galates 3:10, verset 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Donc ces versets sont en train de dire, bon, écoute, tu veux vivre par la loi, ben alors vas-y, mais alors tu dois vivre parfaitement. Alors puisque c'est impossible, heureusement que le verset 13 est là. C'est la suite du texte. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Voyez, c'est tellement clair. Tu peux essayer de garder la loi, mais alors au jour du jugement dernier, tes œuvres seront comparées à la loi qui est sainte et juste et bonne, Galates 3:12. Et mon ami, ce jour-là, lorsque tu seras confronté par toi, tu seras confronté par l'absurdité d'avoir essayé de garder la loi, puisque Dieu te demande rien d'autre que la perfection. Non, mieux vaut tout simplement accepter le constat de Jésus dans Jean 7:19 où il dit « Moïse, ne vous a-t-il pas donné la loi et nul de vous n'observe la loi ?» Écoute Seigneur, je lis la loi et il n'y a qu'un constat. Plus je la lis, plus je réalise que je suis rien d'autre qu'un maudit pécheur. Ça, c'est l'utilité de la loi. Mais oui, la loi n'a pas été donnée aux hommes pour qu'ils essayent de la garder. Elle a été donnée aux hommes afin qu'ils réalisent qu'ils ne peuvent pas atteindre les exigences de Dieu par leurs propres efforts. Non, c'est pas possible. Alors quel est le but de la loi? Je vous donne beaucoup de versets, mais bon, c'est comme ça aujourd'hui. Romains 7:7, écoutez, Romains 7:7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Non, la loi elle est géniale, c'est la loi de Dieu, elle est parfaite. Loin de là, mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi ne m'avait dit « tu ne convoiteras point ». Voilà, pour les gens qui se sentent bien, ben la loi c'est comme un miroir qui me montre « waouh, je suis vraiment un pécheur, la loi me dit que je suis un convoiteur, ouh là là, je suis vraiment un convoiteur, je convoite, je suis pécheur ». Verset 12, la loi donc est sainte, le commandement est saint, juste et bon. Alors quel est le but? Ah, le verset de tous les versets, enfin il y en a beaucoup, hein. Tous les versets sont bons, ils sont tous inspirés. Galates 3:24. Ainsi la loi a été donnée comme un précepteur pour nous conduire à Christ. Ah, la loi me montre que je suis un pécheur. Je dis, ah, je suis un pécheur, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut le salut, il me faut le pardon. La loi me pointe vers Christ, le Messie prédit dans l'Ancien Testament, accompli dans le Nouveau Testament. Je vais vers Christ, il me conduit à Christ, verset 24, afin que nous soyons justifiés par la foi. Ah, tu es mon sauveur, Seigneur, je crois en toi, tu es mort et ressuscité pour moi. Et lui, il me justifie en un coup, je suis pardonné, passé, présent, futur, je suis justifié, je suis pardonné, je reçois instantanément la vie éternelle au moment où je crois. Et je reçois Christ comme sauveur et Seigneur. Colossiens 1:28, écoutez. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme et toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu. Écoutez bien, devenu parfait en Christ. Waouh ! C'est quoi le critère de Dieu ? Perfection. Colossiens 1:28 me dit qu'en Christ, je deviens parfait. Vous dites, mais John, t'es pas parfait quand même. Vous avez parlé à ma femme, je sais, d'accord. Ok. Elle vous a dit non, il n'est pas parfait. Non, je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait. Mais Dieu me voit sous la lentille du sang de son Fils. Et Dieu, en son Fils, me considère saint et parfait. C'est fou. Vous dites, je ne comprends pas, moi non plus. Mais c'est vrai. J'étais dans l'avion, là, je revenais de Dallas, j'allais de Dallas à New York, et j'étais en train de réfléchir à mon message, bien sûr. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer la technique de Jésus sur la dame à côté de moi. Donc j'ai commencé à discuter avec elle, c'était une super dame, elle était assez jeune. Elle venait de faire fortune dans une sorte de start-up en Californie, donc elle avait toutes ses réunions. Pendant les 3 heures de vol, on a atterri, elle avait reçu, je crois, 150 emails. On a atterri, je me suis dit, waouh, elle est vraiment occupée, cette dame, d'accord? Elle m'avait même donné son chiffre d'affaires. C'est aux États-Unis, les gens parlent de leur argent. Ouais, écoute, voilà, je fais tant. Je me dis, c'est incroyable. Bref, je commence à discuter avec elle et on commence, imaginez, à parler de la vie éternelle et tout ça. Elle m'a dit, ah, écoute, vis-à-vis de la vie éternelle, elle m'a dit ceci, je la cite, j'ai un e-ticket pour le ciel. J'ai dit quoi? J'ai un e-ticket, j'ai un ticket E, donc email pour le ciel. C'est-à-dire qu'elle dit, moi de toute façon, quand je meurs, je vais directement au ciel. J'ai dit, ah bon? Et pourquoi? Elle a dit, bah, parce que je suis juive. Je suis le peuple choisi et je vais directement au ciel. J'ai dit, ah bon? Vous croyez vraiment ça? Bah ouais. J'ai dit, mais c'est quand même intéressant comme réflexion. Alors je lui ai dit, mais est-ce que vous péchez? Est-ce que vous pensez que votre péché a un facteur par rapport à cela? Il m'a dit, oh, je sais pas, j'ai un étiquette, je suis juif, c'est bon. J'ai dit, écoutez, le étiquette dont vous parlez parle aussi des 10 commandements, c'est quand même dans votre Bible. Ouais. Est-ce que vous croyez que vous allez garder les 10 commandements? Je sais pas. J'ai dit, essayons, on teste, d'accord? Elle a dit, d'accord. Bon, j'avais le temps, j'avais 3 heures, d'accord? J'ai dit, je les prends à la fois. Premièrement, j'ai dit, madame, est-ce que le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face? Avez-vous toujours adoré et aimé Dieu de tout votre cœur? Elle m'a dit, non. Ah, vous venez de violer le premier commandement. D'accord, elle souriait tout, d'accord. Deux, tu ne feras point d'image taillée. Est-ce que vous vous êtes déjà prostré devant une statue pour prier dans une église, peut-être quand vous voyagez en Europe? Oui. Ah, vous venez de violer le deuxième commandement. Trois, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Avez-vous déjà juré au nom de Dieu ou de Jésus? Ah oui, constamment. Ah, vous venez de violer le troisième commandement. Quatre, souviens-toi du jour du repos. Est-ce que vous avez toujours respecté le sabbat? Non, jamais. Ah, vous venez de violer le quatrième commandement. 5. Honore ton père et ta mère. J'ai dit, est-ce que vous avez toujours honoré votre père et votre mère? Ah non. Ah, vous venez de violer le 5e commandement. 6. Tu ne tueras point. Ah là, j'ai jamais tué personne. Je dis, oui, mais Jésus a dit que si tu regardes quelqu'un en colère, tu l'as déjà tué dans ton cœur. Ah oui, dans ce cas-là, je suis coupable. Donc, vous venez de violer le 6e commandement. Oui. 7. Tu ne commettras point d'adultère. Ah là, je suis bon. Mais Jésus a aussi dit que si tu regardes une femme dans ton cœur pour la convoiter, tu viens de commettre l'adultère. Est-ce que vous avez déjà convoité un homme? Oui, vous venez de violer ce commandement. 8. Tu ne déroberas point. Avez-vous déjà volé quelque chose quand vous étiez petit? Oui, vous venez de violer le 8e commandement. 9. Tu ne porteras point de faux jugement ni de témoignage contre ton prochain. Avez-vous déjà menti contre quelqu'un? Oui, vous venez de violer le 9e commandement. 10. Tu ne convoiteras point. Avez-vous déjà convoité? Oui. Ah, vous venez de violer le 10e commandement. Ensuite, je lui dis ceci. Madame, vous venez d'avouer que vous avez violé les 10 commandements de manière flagrante, et vous pensez que vous avez une étiquette au ciel? Vous venez d'admettre en quelques minutes que vous êtes polythéiste, idolâtre, que vous prenez le nom de Dieu en vain régulièrement, que vous déshonorez le sabbat, que vous déshonorez vos parents, que vous êtes assassin, adultère, voleuse, menteuse et convoiteuse, et Dieu va dire, rentre. Vraiment? Vous pensez vraiment ça? Où est la loi? La loi est là pour nous montrer notre péché. Ensuite, je lui ai parlé de Jésus. 5. La justification étonnante du jeune homme riche. Donc, il se justifie ici. C'est très intéressant. On est de retour à Marc 10, verset 20. Donc, Jésus lui cite ses commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, pas de faux témoignage. Honore ton père et ta mère. Verset 20, il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. On est compte. J'ai fait toutes ces choses de ma jeunesse. Donc il analyse sa vie. Il dit, j'ai tué personne. J'ai pas commis l'adultère, donc apparemment il était marié, j'étais fidèle à sa femme. Je n'ai jamais volé quoi que ce soit, même pas en carambar, jamais, quand il était gamin, c'est ce qu'il dit. Peut-être qu'il n'y avait pas de carambar à l'époque, mais je suis sûr qu'il y avait d'autres bonbons, d'accord? Je n'ai jamais menti, Est-ce que c'était la première fois qu'il mentait de sa vie? Et il dit que j'ai toujours honoré mes parents. Il dit, j'ai gardé les commandements que tu cites depuis ma jeunesse, depuis ma toute petite enfance. Et dans Matthieu 19, 19, hein, Jésus termine ses commandements en disant, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc il dit, bah, apparemment, j'ai gardé tous ces commandements et j'ai même aimé mon prochain comme moi-même. Alors regardez, c'est très très beau. Verset 21. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. C'est un amour rempli de pitié ici. Pour un homme qui se croit vraiment, vraiment juste. Par ses propres efforts. Jésus aime le pécheur. Même s'il n'aime pas son péché, il est mort pour son péché. Mais il aime le pécheur. Il est le péché. Et au verset 21, l'ayant regardé l'aima et lui dit, il te manque une chose. C'est intéressant, dans Matthieu 19, 20, c'est l'homme qui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? On l'a déjà dit, malgré cette vie irréprochable, religieuse, il ressent un vide dans son cœur. Vous savez mes amis, je vais vous dire un truc. La religion, c'est vide. La religion, c'est quoi? C'est de devoir faire des choses, des rites. C'est vide. Parce que la religion ne satisfait pas le cœur humain, mais nous laisse insatisfaits. Je me demande si ça reflète ton cœur ce matin. T'en es où? T'es peut-être jeune, riche, haut statut. Travail intéressant, respecté, socialement élevé, fidèle à l'Église même, religieux, impeccable. Les gens te regardent, ils disent, toi, tip top. Mais dedans, qu'est-ce qui se passe dedans? Dedans là, est-ce qu'il y a un vide? Si tu mourais ce soir, est-ce que tu es sûr que tu passerais l'éternité devant un Dieu trois fois saint? S'il n'y a aucun doute. Tu es sûr. Est-ce que tu es angoissé? Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu es comme cet homme? Est-ce que tu es là en train de poser la question, mais il me manque encore quelque chose? Alors maintenant, Jésus va lui montrer que sa vie religieuse n'est pas aussi irréprochable qu'il le pense. En fait, il va lui montrer que cette vie irréprochable est une offense totale à un Dieu trois fois saint. 6. Le dilemme compliqué du jeune homme riche. Verset 21. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens, suis-moi. Alors, c'est intéressant, Jésus déjà affirme et confirme qu'il lui manque quelque chose. Donc il confirme, voilà, tu n'as pas la vie éternelle. Il lui dit de faire deux choses, renonce à tout ce que tu possèdes, vends-le et donne-le aux pauvres, et ensuite suis-moi. Alors juste une petite, je ne pourrais pas résister. Ça m'a fait penser à la doctrine de la prospérité qu'on entend tellement aujourd'hui. La différence entre Jésus et les prédicateurs de la prospérité, c'est que Jésus lui a dit de donner son argent aux pauvres, pas à lui. Et les prédicateurs de la prospérité, c'est tout le contraire. Donner l'argent à moi, c'est une honte. Je ferme la parenthèse. D'accord. Et pourquoi est-ce que Jésus lui demande de faire ça? Pour lui révéler son péché. Si le jeune homme refuse de faire ce que Jésus vient de lui demander, alors cet homme quoi? Alors Jésus lui dit, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. C'est quand même radical, on est d'accord. Donc s'il ne le fait pas, mais il aura péché contre le dernier commandement qui est le résumé des 5, tu aimeras ton prochain comme toi-même. S'il refuse de donner son argent aux pauvres, il vient de prouver qu'il n'aime pas son prochain comme lui-même au fin de fond des choses. S'il aimait vraiment son prochain comme lui-même, alors il donnerait ce qu'il possède pour l'aider. Ce ne serait pas un problème. Surtout si c'est Dieu qui le demande de le faire. Il n'est pas convaincu que Jésus est Dieu. Et il n'aime pas vraiment son prochain comme il pensait le faire. Et puisqu'il viole ce commandement, qui est un résumé des 6 derniers commandements, en fait, cet homme pêche contre tous ces commandements. La première partie du décalogue, c'est les lois entre nous et Dieu, et la deuxième partie, c'est entre nous et notre prochain. Ben là, il vient de les violer. Puis ensuite, il y a un petit verset assez intéressant dans 1 Jean 4:20, qui dit ceci. 1 Jean 4:20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Donc, puisqu'il vient de prouver qu'il n'aime pas son prochain, ben, il vient de prouver finalement qu'il n'aime pas Dieu. Finalement, il vient de prouver qu'il a violé les 10 commandements. C'est quand même marrant, vous ne trouvez pas ? En un instant, Jésus lui montre qu'il a violé tout le décalogue. Et puisqu'il a essayé de vivre sa vie selon la loi, il serait jugé par la loi qu'il a violée. Il est coupable sur 10 points. Alors, son vrai problème, Jésus vient de révéler quel est son vrai problème à cet homme. Vous savez ce que c'est ? Pour lui, c'est l'argent. Pour lui, c'était l'argent. Son argent était devenu suprême dans sa vie. Et comme on l'a déjà dit, Jésus n'accepte pas la concurrence. Jésus, Dieu incarné, veut être suprême dans notre vie. C'est l'un ou l'autre, Dieu ou autre chose. Matthieu 6, 24, je répète, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Luc 14, 33 nous dit que nous devons renoncer à tout pour suivre Jésus-Christ. Dieu veut que nous nous repentions de notre péché, quelle que soit la chose qui nous bloque de pouvoir donner notre être à 100% à Dieu, doit partir. Pour lui, c'était son argent. Alors vous dites, mais alors est-ce que nous, on doit renoncer à tout notre argent ? Est-ce qu'on doit faire pareil ? On doit tout vendre et donner aux pauvres pour suivre Jésus ? Alors, ce n'est pas la bonne question. Pour lui, oui. Pour toi, c'est ça la bonne question, et pour moi. Qui est le Seigneur de ma vie ? Qui est mon Dieu ? Qu'est-ce qui prend mon énergie, mon temps, mes talents ? Ma concentration. Le premier commandement est clair, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Vous savez, on peut se faire des idoles et des dieux, mais il y en a 36 000. Pour lui, c'était l'argent. Mais peut-être pour toi, c'est quelque chose d'autre. Qu'est-ce qui fait obstacle à la seigneurie de Jésus-Christ ? Ça doit être rejeté, on s'en repent. Pour d'autres, c'est peut-être... Je parle d'un autre air, la sexualité. Moi, je pense que le sexe aujourd'hui, c'est vraiment un dieu. Il y en a qui disent, attends, si je deviens chrétien, je vais devoir me réserver jusqu'à que Dieu me donne un époux ou une épouse. Oui. Et oui. Et tu seras tellement plus heureux, je te garantis. Peut-être c'est l'avancement professionnel. Vous savez, dans une ville comme Genève, c'est facile. Hein. C'est pas un mal. Ces choses ne sont pas un mal. 1 Timothée 6, vous pouvez lire. C'est pas l'argent qui est un problème, c'est l'amour de l'argent. Lorsque l'argent devient notre Dieu, ou l'avancement professionnel, ou la gloire. C'est ça le problème. Pour Zachée, lui, c'était l'argent. Et quand il s'est converti, il a dit... Tout ce que j'ai volé aux gens, je donne 3-4 fois. Tout ce que j'ai rendu, je rends tout. En un instant, le cœur de Zachée était changé vis-à-vis de l'argent, il était prêt à tout donner. C'est super à voir. Donc, Jésus a raison dans Luc 14, 33, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. C'est vrai. Qu'est-ce qui te bloque d'être le disciple de Jésus ? Il faut renoncer à cette chose. Ça, c'est la repentance. Moi, je me rappelle quand je suis venu à Christ, j'avais 19 ans en Inde. Moi, je ne connaissais pas tout ça, mais je me rappelle. Je dis, écoute, Seigneur, moi, prends tout. Fais de moi ce que tu veux. C'est ce que je lui ai demandé. Et c'est ce que je lui demande encore. 6. La décision attristante du jeune homme riche. Quel verset absolument horrible. Verset 22, mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Cet homme réagit comme le singe. Il se cramponne à son appât, qui mène à sa perte. C'est un des versets les plus tragiques de toute la Bible. Il n'était pas prêt à se débarrasser de ce que était son obstacle à la vie éternelle. Lorsque Jésus a appelé Pierre, il a dit « Suis-moi ». Il a tout laissé, il l'a suivi. Oui, il avait un commerce, vous vous rappelez, il était pêcheur sur la mer de Galilée. Il a tout laissé. Ok, je te suis. André, pareil, il a tout laissé, il l'a suivi. Matthieu, lui aussi, il a tout laissé, il l'a suivi. Judas, il a tout gardé. Il s'est suicidé, l'homme de perdition. Il voulait son argent. Et le jeune homme riche, il a tout gardé. Il a perdu la vie éternelle. Et pour toi? Pour toi, c'est quoi? Si tu ne connais pas Christ. Je termine avec la leçon puissante du jeune homme riche. Allez avec moi, s'il vous plaît, tout le monde, à Genèse 22. Je vais vous montrer un truc incroyable. Je termine avec ça. Genèse 22. Genèse 22. Genèse 22, verset 1. 1 et 2, juste deux versets, regardez. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham, il répondit, me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Vous dites, « Quoi ?» Ouais, vous avez bien lu. Dieu dit à Abraham, « Va et tue ton fils. » Abraham, il se dit, mais attends, c'est pas logique. Non, pas logique. On est d'accord, il venait de lui donner son fils comme fils de la promesse. Et il fait quoi? Verset 3, Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac et il y va. Vous dites, mais pourquoi? C'est pas logique. Écoutez bien, parce qu'il savait qui lui demandait de faire cela. Il était absolument convaincu que c'était Dieu qui lui demandait de faire cela, même si c'était illogique à ses yeux. Il préférait être au plein centre de la volonté de Dieu sans son fils que d'être avec son fils à l'extérieur de la volonté de Dieu. Voyez-vous, ce test a montré qu'Abraham aimait Dieu plus que même son fils de la promesse. Il aimait Dieu plus que toute autre chose. Mes amis, voilà notre appel. Voilà ce que Jésus veut de toi et de moi. Il veut qu'il n'y ait aucune concurrence, que tout, mais tout soit posé au pied de sa seigneurie. Et qu'on soit prêt à tout donner pour lui. Alors Dieu, vous connaissez l'histoire ? Il va tuer son fils et tac, il y a un ange qui vient, tac, il l'arrête. Il dit, ok, c'est clair pour toi Abraham, c'est vraiment clair. Question, est-ce que c'est clair pour toi? Est-ce que c'est clair pour moi? Prions. Ouais, Seigneur, ce récit est bouleversant, il est bouleversant. Et peut-être que chacun de nous, on peut s'y retrouver là, Seigneur, dans ce récit. Seigneur, merci qu'on a la Sainte Cène maintenant et dans les minutes devant nous. Seigneur, je te prie de sonder nos cœurs, de nous montrer, Seigneur, où peut-être nous faisons fausse route. Mais Seigneur, pour nous qui connaissons Christ, que nous puissions te bénir et te remercier pour cette grâce, ce don gratuit du pardon des péchés. Seigneur, c'est une chose inouïe. S'il y a quelqu'un ici ce matin, Seigneur, qui ne connaît pas Christ, qui est comme ce singe qui tient son appât. Moi, je te demande qu'aujourd'hui, il lâche et dise, Jésus, prends tout. Jésus, je ne comprends pas tout, mais je crois vraiment que tu peux me donner la vie éternelle et le pardon des péchés. Je lâche. Seigneur, fais ton œuvre dans ma vie. Utilise ces moments, Seigneur, autour de cette table du Seigneur, pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.